Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sal et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix de São Paulo 2022. J'accueille avec moi un des modérateurs de la monoplace et fondateur du championnat de sim racing canadien, François Carignan. Salut François.
Salut Abdou, ça va?
Ça va bien toi?
Ouais, on a eu une bonne course. Intéressante, donc je suis quand même satisfait, même si jamais mon écurie a décidé de bottle ça comme des grands champions, on va y revenir.
Ouais, c'était un Grand Prix du Brésil classique, donc un Grand Prix fou, ouais. Comme on les aime.
Ah, absolument, une des meilleures courses cette saison, il n'y a aucun doute en termes de spectacle.
Oui, définitivement, je dirais même la meilleure.
Ouais, top 3, moi je te dirais... Ouais, Silverstone, ça, puis trouve un troisième, là, mais ouais, définitivement, là, dans l'état. Ça, je n'ai aucun doute.
Et en plus, aujourd'hui, on a le 113e vainqueur différent de l'histoire de la Formule 1, puisqu'il s'agit de George Russell, parti premier, en fait, devrais-je dire, après le sprint, devant Lewis Hamilton, deuxième, et Carlos Sainz complète le podium. Charles Leclerc, quatrième. Fernando Alonso, cinquième, alors qu'il était parti loin sur la grille de départ. Sixième, Max Verstappen. Septième, Sergio Perez. Et disons que ça a brassé entre les deux. Ou ça va brasser dans les prochaines heures ou dans les prochaines minutes, je ne sais pas. Au moment où on enregistre, évidemment. Esteban Ocon, huitième. Valtteri Bottas, neuvième. Et Lance Stroll, dixième. Et nous avons perdu dans cette course Lando Norris, Daniel Ricciardo et celui qui a obtenu la pole position vendredi, Kevin Magnussen sur la Haas. Ouais, non, on est dimanche, 15h25, heure du Québec. Et encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à réaliser que Magnussen était en pole. Donc, François... comme à l'habitude, très rapidement, as-tu des top performances, contre-performances et moments cocasses de ce Grand Prix de São Paulo?
Bon, à tout seigneur, tout honneur, George Russell. C'est pas nécessairement qu'il y a eu la course la plus difficile, on s'entend, parti en avant, resté en avant. Même chose pour Lewis Hamilton, les deux là, ont fait leur travail là, à la lettre et vraiment aucun reproche. Donc, autant de mon point de vue, George Russell mérite le titre de pilote du week-end au complet, là, pilote du jour et du week-end, que Lewis Hamilton mérite tout aussi bien là, et les acclamations là, du public, qui l'aime beaucoup d'ailleurs au Brésil. Ensuite de ça, Carlos Sainz a eu une très, très bonne course. Fernando Alonso aussi, 12 positions gagnées. Même chose pour Esteban Ocon, même si jamais, bon, ça a été peut-être un petit peu plus laborieux dans son cas. Valtteri Bottas s'est retrouvé dans une super bonne position pendant un bout de temps. Là, si je ne me trompe pas, à la relance de la voiture de sécurité était 5-6e. Donc, lui, ça allait, s'était mis dans une bonne position. Malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé. Sinon, Sébastien Vettel avait quand même aussi une bonne course à un certain moment, se retrouvait dans les bons points. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, du mauvais côté, Daniel Ricciardo, ça a l'air niaiseux parce que, tu sais, une collision comme il s'est passé avec Kevin Magnussen, c'est pas le geste en tant que tel qui est le plus grave, c'est ce qui a suivi. La voiture de Magnussen qui continue à déraper, Ricciardo qui se fait emporter avec, donc c'est dommage, tu sais, je pense que c'est la collision initiale là, aurait définitivement pu permettre aux deux pilotes de continuer. Mm-hmm. Mais bon, faute à Ricciardo là-dedans, donc une mauvaise note dans le cahier. Sinon, là, Verstappen pour plusieurs choses.
On en reparlera, ouais.
Mais bon, autant la collision avec Hamilton, bon, je suis pas d'accord avec la pénalité de 5 secondes, mais ouais. Je suis d'accord quand même qu'il y avait une majorité de la faute qui était à Verstappen. Pour moi, ça aurait été un racing incident, mais bon, on en reparlera, là, comme tu as dit. Mm-hmm. Puis Sergio Perez n'avait aucun pace. Lui n'a eu qu'un seul trait de pneu tendre et deux trains de pneus médium, là, le fait qu'il y ait une voiture de sécurité à la fin, là, complètement écrasée, là, c'était certain que le podium était à oublier parce que tout le monde était sur des meilleurs pneus. Mais de façon générale, là, ne semblait pas avoir vraiment de rythme ce week-end. Aujourd'hui, en tout cas, je trouvais que c'était pas une bonne performance de sa part. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait à souligner?
As-tu un moment cocasse que tu as pu observer durant ce Grand Prix ou bien sur l'ensemble du week-end?
Mais la FIA, là, quand ils laissent passer les voitures
qui sont
en arrière, là, Tsunoda faisait quoi? Là? Tu vois sur la relance, là, il doit carrément se tasser sur le côté parce qu'il n'y avait pas rapport là et qu'il était en position de retardataire. Je veux dire, qu'est-ce que la FIA faisait?
Oui, ils ont carrément oublié. Parce qu'ils ont dit, ben, les deux Williams vont passer, vont dédoubler, vont revenir derrière la file. Mais ils ont complètement oublié la AlphaTauri de Tsunoda. Et après, on dit que c'est la faute à Michael Massey. J'ai dit ça, je dis rien.
Ah ben, c'est vraiment... Tu veux déclencher une polémique? Mais tout ça pour dire. Puis l'autre chose, Lando Norris, c'est de sa faute ce qui s'est passé avec Charles Leclerc. Autant au début, là, je trouvais que ça avait l'air d'un racing incident aussi, mais plus tu vois de caméras différentes, plus tu réalises que vraiment, là, tu sais, c'est mis dans l'eau chaude lui-même. Excellente récupération de Leclerc. D'ailleurs, ça, j'ai oublié de le dire, là, était essentiellement là, en fond de gris puis hors montée. À la Carl Souza Texera dans le CSC. Donc, je trouve que vraiment un bon travail de sa part, là, toute chose, tout contexte considéré. Vraiment, là, Lando Norris, c'était pas glorieux. Disons juste ça là, pour ce week-end.
Ouais. Disons que j'ai déjà fait la blague dans le chat privé. Je vais le dire publiquement, c'est une fin de semaine dure à avaler pour Lando Norris.
Mm-hmm.
Ouais, après, évidemment. Mm-hmm. Et d'ailleurs, joyeux anniversaire Lando qui fêtait son anniversaire de naissance aujourd'hui. Donc, c'est pas la meilleure fin de week-end qu'il souhaitait, mais au moins, il va pouvoir manger un bon gâteau avant de s'envoler à Abu Dhabi.
Parce que si jamais il est capable de le garder.
Ouais. Ou s'il n'a pas
capable de le gérer.
Exactement. Donc, ça aussi, ça va être un autre enjeu.
Il va vouloir oublier cet anniversaire-là, ce champ. J'en suis pas mal certain.
Ah, définitivement. Moi, de mon côté, définitivement, le titre de pilote de performance au top revient à George Russell, mais je vais donner une mention honorable à Fernando Alonso et à Valtteri Bottas aussi, qui était... Alonso qui est parti quand même loin.
C'est 17e?
Je pense qu'il était parti 17e. Et en plus de ça, fait de très beaux dépassements aussi. Valtteri Bottas était dans le coup aussi pour marquer d'autres points pour Alfa Romeo, ce qu'il a fait une belle 9e place. Vraiment chapeau au Finlandais. George Russell, on en reparlera. Contre-performance, je dirais Red Bull dans l'ensemble des cas. Oui, il y a Verstappen, on en reparlera. Perez, comme tu l'as dit, n'était pas dans le coup.
La stratégie ne l'a pas aidé, mais je veux dire, il ne s'est pas aidé non plus.
Non, exactement. Donc, ça ne l'a pas aidé. Sinon, j'ai failli mettre Aston Martin ou Lance Stroll, mais je vais lui donner le bénéfice du doute parce qu'au moins, il est allé chercher une 10e place. Mais sa défensive sur son propre coéquipier lors du sprint, inacceptable. La pénalité de 10 secondes est amplement méritée. Maman cocasse, Est-ce que c'était vraiment un moment cocasse? Mais bon, je vais détourner un peu, je vais contourner un peu. La communication radio de Esteban Ocon, pardon, à la relance, où il dit, ben, je suis plus rapide que Fernando, puis t'as Mark Slade, qui est l'ingénieur de piste de Ocon, qui lui dit, Esteban, ne fais pas ça, OK? Tu ne te bats pas contre Fernando, et spécialement après ce qui s'est passé hier, ben, samedi, lors du sprint, où les deux se sont accrochés deux fois plutôt qu'une. Donc, je pense que ça aussi, de voir qu'Esteban tenait tant à rester devant Fernando, ce qui finalement, du côté d'Alpine, ça s'est avéré juste, puisque Alonso termine cinquième et Ocon huitième quand même. Donc, au moins, ce sont des points engrangés, de bons points engrangés pour Alpine, mais la communication d'Esteban Ocon était assez drôle. Bon, maintenant, parlons de George Russell, qui, 5 ans auparavant, faisait sur ce même circuit ses premiers. Ben en fait, c'est sa première apparition lors d'un week-end de Formule 1 en FP1 avec Force India. 5 ans plus tard, il devient un vainqueur de Grand Prix. Ce qui aurait pu, il aurait pu l'être à s'acquérir en ITT d'une crevaison et, d'un fuck-up de Mercedes.
Oh oui. Oh, ça, je pense que. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus que. Il avait fait ce qu'il fallait. Ça, aucun doute.
Exactement. Et là, aujourd'hui, il l'a fait. Il est finalement un vainqueur de Grand Prix. Et tout ça, en grande partie, grâce à son sprint de samedi, une belle bataille avec Max Verstappen qui lui a donné une victoire de sprint et de partir premier sur la grille de départ pour la course de dimanche. Mais il a été sans faille tout au long de la course.
Ben, écoute, il n'y a pas grand-chose à souligner de sa part parce qu'il n'y a pas eu de close call, vraiment. Il n'y a pas eu de moment où il était en panique. Il était toujours en contrôle. Quand tu entendais sur la radio, il ne semblait pas dépassé par les événements. Évidemment, là, c'est un gars qui a gagné des courses dans sa vie. C'est pas retrouvé en F1 là, parachuté là, sans mérite. On s'entend, là, il sait comment courser, il sait comment gagner. Mais quand tu as ton coéquipier derrière dans la même voiture, qui est un septuple champion du monde, qui est dans 2 secondes d'écart, ça se peut qu'à la fin de la course, tu aies quelques frissons. Mm-hmm. Et tu te dises, faut pas que je l'échappe, parce que sinon c'est terminé. Il a vraiment démontré un grand savoir-faire, un grand calme. Même chose pour Lewis Hamilton, je trouve quand même qu'il a été fair. À la fin, je dis pas qu'il a levé le pied volontairement, là, mais c'est pas mis dans une situation ridicule, si on veut, qui aurait pu coûter sa course. Lui aussi est à la recherche de quelque chose. Il veut être un vainqueur dans chacune des saisons auxquelles il participe. Puis autant, je suis sûr qu'en ce moment, il va être très, très fier pour George. Puis c'est un 1-2 Mercedes avec essentiellement, là, c'est essentiellement le maximum des points, si je ne me trompe pas, récolté ce week-end. Parce que oui, en sprint, il avait fini 1-2.
Mm-hmm. Ouais.
Sainz a été troisième.
Mais c'est juste qu'il y a eu sa pénalité de 5 places.
On est à un point d'un week-end parfait chez Mercedes. Là.
Et voilà.
Donc, pour moi, c'est très, très, très positif ce qui s'est passé pour Mercedes. Donc, Hamilton va être content du résultat, mais peut-être qu'au final, là, après la saison, si jamais il ne réussit pas à s'en tirer avec une victoire à Abu Dhabi, il va peut-être se dire « Ah, c'était ma chance. Hein? »
Mm-hmm, exact.
Donc, mais au final, je suis sûr que c'est pas quelque chose qui va trop le déranger. Lui a tout accompli. Enfin, je pense pas que c'est quelque chose qu'il va penser là, pendant 5-10 ans là, quand il va prendre sa retraite puis qu'il va le regretter longtemps. Non, c'est plus un. Ah, c'est un peu dommage, mais au-delà de ça. Ouais.
Exact. Puis vraiment, Puis de toute façon, Hamilton, dans les derniers. Ben, surtout avec. On en reparlera avec l'accrochage, je pense que c'est peut-être. Il avait peut-être.
Ça ne l'a pas aidé.
Ça ne l'a pas aidé non plus. Mais Russell était intouchable à ce moment. était juste intouchable. Donc, je ne pense pas qu'on aurait eu cette bataille entre les deux qu'on souhaitait avoir entre les deux pilotes Mercedes. Mais au moins, ça a permis à l'écurie d'obtenir un doublé. Doublé en plus. Non seulement la première victoire de la saison, mais un doublé en plus. Donc, surtout dans la course pour le championnat des constructeurs, il y a quand même... Ferrari a quand même fini troisième et quatrième, oui. Donc, quand même, je regarde le classement, c'est 19 points qui séparent Ferrari de Mercedes avant la dernière épreuve de la saison, la semaine prochaine à Abu Dhabi. Alors, ce doublé, il était plus que nécessaire, surtout pour une écurie qui en arrachait en début de saison.
Ils sont revenus.
Puis, personnellement, je ne pensais même pas que Mercedes allait être dans le coup ce week-end. Mais finalement, force est d'admettre que je me suis trompé. Et je pense que ça va faire du bien pour Mercedes, au moins, de se préparer pour 2023, même si l'écurie a dit qu'elle va... avoir un design de voiture différent de ce qu'ils ont cette année, mais ça peut les aider au moins pour construire sur 2023, au moins ce serait parfait pour eux.
Ben écoute, je trouve que la voiture actuellement fait très bien là. Honnêtement, je pense qu'ils ont trouvé les tu m'excuseras, livraison.
Ah!
Tu veux mettre pause?
Donc, oui, je vais continuer là-dessus.
J'en reviens, c'est pas
long. Donc, pendant ce temps, je vais juste continuer pendant que François revient. Oui, je pense que Mercedes, on s'entend, début de la saison, c'était difficile. Je me souviens, à un moment donné, bon, Hamilton qui finit 10e en Arabie Saoudite, Russell qui avait le dessus. Ensuite, on voit Hamilton revenir avec des podiums consécutifs. Entre autres, il y a eu des podiums.
Of course, ça doit arriver là.
Donc, c'est ça. Je pense que Mercedes a bien pris du galon. Puis là, on parlait de circuits comme Hongrie, Zandvoort, Singapour. À la limite, il y en a qui disaient même Japon à la limite si ce n'était pas de la pluie aussi, qui auraient été les meilleures chances de Mercedes de gagner des courses. Mais jamais je m'attendais à ce que Brésil soit une des courses. Au moins, ça tombe bien pour eux.
Ben, écoute, ça semble une voiture que dans les circuits sinueux, se comporte quand même bien. Mm-hmm. Donc, on l'a vu, Hongrie, Russell a eu la pole. Singapour, tu sais, c'est un circuit qui est relativement rapide, un peu comme le Brésil. Tu sais, c'est pas un circuit qui est lent, mais qui t'as essentiellement jamais le volant droit.
Mm-hmm.
T'as deux lignes droites ou encore vraiment le point du circuit qui sont rapides. Puis le reste, c'est relativement toujours en virage, à moyenne vitesse. Fait qu'on dirait que c'est là que Mercedes se comporte le mieux. Puis, je trouve aussi que, comme je disais, la voiture, autant Mercedes dit qu'ils vont y aller pour une philosophie différente l'an prochain, je suis pas sûr que j'irais. Ben évidemment, je connais rien en F1 comparé au personnel de l'écurie. Là.
Mm-hmm.
Mais il y a vraiment quelque chose de bien quand même là.
Ouais.
La voiture, on l'a vu là, au fur et à mesure que la saison a progressé, c'est constamment amélioré. Donc, peut-être qu'ils sont venus à un point ou que peut-être qu'ils ont une recette gagnante.
Mm-hmm.
Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, là?
Ouais, ben, moi, je pense que... Je sais pas trop. J'espère que pour 2023, ça va être... ça va être quand même quelque chose qui va... où on pourrait voir Mercedes revenir, mais cette année, moi, je sais pas si... Est-ce que c'est pas les... c'est le design non sans ponton aussi qui a... aussi joué dans les en défaveur de Mercedes cette année. Mais parce qu'on avait aussi Williams opté, je pense, en milieu de saison aussi pour la même optique, mais ça a fonctionné un peu plus tard dans la saison pour Mercedes. Mais je sais pas, je pense que même si Mercedes finit troisième, il y a de bonnes chances qu'ils finissent troisième, honnêtement, là.
Ouais, ils ont 20 points à peu près de retard.
Ouais, 19 à peu près. Ils ont 19.
19. Écoute, de la façon que Ferrari se comporte, c'est pas impossible. Là.
C'est pas impossible. Une course. Mais en même temps, je pense qu'ils vont être relativement satisfaits de comment ils sont revenus, je trouve.
Ah oui, c'était pas parti comme ça au début de saison. Mm-hmm. Il y a eu une constante amélioration, puis visiblement, ils ont trouvé des choses positives, puis ils ont réussi à travailler là-dessus puis à développer la voiture. Là, et depuis la mi-saison, c'est complètement différent comme rendement.
Ouais, j'ai hâte de voir parce que bon, il reste la course à Abu Dhabi. Puis bon, je maintiens ce que j'ai personnellement. Je pense pas que Mercedes va être dans le coin à Abu Dhabi, mais on sait jamais.
On disait ça de Brésil quand la dernière fois qu'on s'est parlé, puis ben ça finit 1-2. Donc c'est toujours difficile à dire.
Ouais, exactement. Donc là, on va parler de ce qui s'est passé, l'accrochage entre Hamilton et Verstappen, qui a résulté en une pénalité de 5 secondes à Max Verstappen, où, bon, le Néerlandais tentait de dépasser Hamilton. Ce dernier garde sa position au S de Senna. Et ensuite, ben, les deux s'accrochent. Contact. Dommage au niveau à l'avant pour Verstappen. Hamilton continue mais perd des positions. Alors, on s'était dit qu'on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord sur la décision. Qu'est-ce que tu en penses, François, de la décision des commissaires de donner une pénalité de 5 secondes à Verstappen?
Ben écoute, la majorité de la faute revient à Verstappen, OK? Ça, je suis d'accord. Mm. Par contre, à un moment donné, il faut accepter que ça se passe tellement vite que il doit y avoir quand même un niveau de considération du fait que tu peux pas juste attendre puis te dépasser dans une ligne droite comme on le voit malheureusement trop souvent. C'est à peu près la seule façon de dépasser. Puis ce qui fait en sorte que ça donne des courses relativement plates. Même chemin, il peut y avoir des dépassements. C'est pas nécessairement le plus excitant quand tout se fait avec un DRS. Mm-hmm. Donc moi, autant je serais prêt à dire que c'est comme deux tiers de la faute à Verstappen, le tiers de la faute à Hamilton. Tu sais, Hamilton aurait pu, on peut s'entendre, aurait pu reprendre le virage plus large puis laisser de la place à Verstappen. Verstappen n'a jamais vraiment été complètement devant. Les deux, on peut s'entendre, au meilleur des cas, étaient côte à côte.
Mm-hmm.
Donc, oui, ça méritait un avertissement. Pour moi, ça méritait une note de la FIA. Ça, c'est clair. Il y a eu un contact suite à une tentative de dépassement. Puis, tu sais, les 5 secondes, c'est dommage parce que 5 secondes, c'est trop, mais rien n'est pas assez.
Mm-hmm.
Il n'y en a pas de 3 secondes.
Ouais.
Fait que c'est. Puis, tu sais, tu ne veux pas commencer à aller dans tes 3 secondes parce que. Après ça, on commence toujours à comparer. Ah, mais cette fois-là, tu as eu 3 secondes, j'ai fait la même chose la fois d'après, j'en ai eu 5. Pourquoi 3 maintenant? Pourquoi? En ce moment, c'est bien 0, 5, 10 puis un drive-thru.
Ouais. Ouais.
Je trouve que c'est correct, mais des fois, tu tombes dans des zones grises où tu n'as pas le choix d'aller peut-être un peu trop.
Ouais.
Un peu trop sévère, parce que c'est la seule alternative.
Ouais, je maintiens quand même mon point que Verstappen. Ça reste, pour moi, c'est un incident de course que, oui, Verstappen y a blâmé parce qu'il s'est mis le nez là-dedans, mais que Hamilton aurait dû quand même laisser de l'espace. Cependant, pour les commissaires, parce que cette année, en fait, ils ont implanté les règles, la règle de conduite par la FIA en début de saison, en fait. Puis, évidemment, ils se sont basés là-dessus, sur ce code pour pénaliser Verstappen, étant donné que Hamilton, à la caméra embarquée de Verstappen, était légèrement devant. Légèrement, là. Donc, peut-être les commissaires ont donné la faute à Verstappen sur cette action.
Ouais, écoute, c'est beaucoup plus, c'est pour moi, là, c'est beaucoup plus gris que l'incident entre les deux à Monza l'an dernier.
Ouais.
Si jamais on veut comparer, là. Encore une fois, je dis pas que Hamilton est blanc comme neige, tu sais.
Ouais.
Il a pas laissé beaucoup de place. Puis, du moment où que Verstappen s'est retrouvé dans cette position-là, tu peux rien faire à part freiner ou accélérer. Fait que, évidemment, quelque chose qu'on oublie, là, c'est que la FIA a les données de freinage et d'accélération.
Mm-hmm.
A accès à ces informations-là que nous, on n'a pas en direct durant la course. Fait que, en tout cas, on l'a des fois quand ils mettent le petit infographique, mais à ce moment-là, on l'a pas vu. Fait que c'est vraiment difficile de juger qu'est-ce que Verstappen a fait pour tenter d'éviter le geste. Mm-hmm. C'est sûr que cette information-là, peut-être que la FIA s'en est servie pour prendre une décision. Mais ce geste-là était beaucoup plus gris, si on veut, que l'autre qu'on a vu essentiellement là, quelques secondes plus tard.
Exact. Et qui est Norris contre Leclerc. Norris a reçu aussi une pénalité de 5 secondes pour avoir causé une collision avec... Charles Leclerc, là-dessus, je suis d'accord pour dire que oui, Norris est dans le tort sur cette action.
Le premier angle de caméra que j'ai vu, je trouvais que ça avait l'air d'une course en side-by-side qui a juste mal tourné. Puis tu sais, c'était un racing incident, mais non, tu vois carrément que Norris a juste carrément raté son geste. Fait que, ça 5 secondes-là, pour moi, c'était, il n'y a aucun doute. Là. Regarde, c'est mon pilote préféré, mais il faut le reconnaître, celui-là.
C'était pas vraiment fameux de la part de Norris, non. Par contre. En attendant que, au moment d'enregistrer, on ait la décision... sur l'accrochage au départ entre Daniel Ricciardo et Kevin Magnussen, les deux qui ont abandonné dès le premier tour, qu'est-ce que tu as pensé de cet accrochage?
J'en ai parlé un petit peu. Là. Pour moi, c'est le genre d'accident d'accrochage qui est mineur. Là. C'est sûr que ce qui a fait en sorte que ça a mal viré, c'est le fait que Magnussen était à très très basse vitesse en plein virage, donc n'importe quoi qui toucherait à sa voiture l'enverrait faire un boost spinal. sans blague, à ce moment, quand la voiture est dans cette position là, n'importe quel contact va carrément la débalancer puis l'envoyer hors piste, regarde.
En tête à queue.
En tête, exact, c'est le mot que je cherchais. ce que ça a donné, en fait, évidemment, quand tu es dans cette situation-là, puis que tu as tes dos à la piste, à la direction de la piste, ce que Magnussen veut faire, c'est laisser sa voiture reculer pour pas être dans la ligne de course des autres. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas mis les freins, parce que ce qu'il veut, c'est se laisser. Comment dire? Il veut se laisser glisser pour mieux repartir sans être dans la voie des autres. Mais ce que ça a donné, c'est que Ricciardo, en essayant de réaccélérer, n'avait probablement pas analysé cette trajectoire-là puis est rentré directement dans Magnussen. Faute à Ricciardo sur le contact initial puis faute à Ricciardo aussi sur le contact fatal. Pour moi, c'est c'est le genre d'incident qu'on voit dans des débuts de course ou encore dans des relances là, qu'on voit constamment. C'est tu sors les épaules, puis il n'y a pas de place, donc des fois, c'est ce qui arrive. T'sais. On l'a vu de la même façon, le contact entre Hamilton et Verstappen. Si je ne me trompe pas, c'était sur la relance directement.
Ouais.
C'était pas le tour d'après, c'était le tour de la relance. Donc, quand tu as des contacts, 80%, c'est dans une situation de relance ou de début de course. Ouais.
Ouais.
C'est ça.
Donc, c'est ça. J'ai hâte de voir la décision, mais évidemment, au moment où on enregistre, on n'a pas encore de verdict là-dessus.
Ça rend pas le geste plus excusable, le geste plus pardonnable, si on veut, que ça soit en début de course ou au beau milieu d'un drapeau vert au 36e tour. C'est pas ça que je dis, c'est juste, c'est plus fréquent.
Ouais, ouais, exact. Donc, c'est des trucs qui arrivent au premier tour. C'est sûr qu'il y en a qui vont être pardonnés, d'autres non, mais voyons voir ce que... Bon, on verra ce que la FIA va décider, puisque, évidemment, les deux sont probablement au moment où on se parle au bureau des commissaires. Là, on va parler de quelque chose d'un peu plus croustillant, qui s'est produit, en fait, en toute fin de course. C'est Max Verstappen contre Sergio Perez. Et non, c'était pas un accrochage, c'était plus... Max Verstappen qui refuse de donner la place à Perez en fin de course. Évidemment que les deux sont en situation... Perez est en situation de terminer deuxième au championnat des pilotes et il est présentement à égalité avec Charles Leclerc au classement avec 290 points. Mais... Verstappen a refusé de laisser passer Perez et ça aurait pu être 2 points vitaux. Et à la radio, Verstappen, si je me souviens bien, a dit « Non, ce n'est pas dans mes valeurs, on en a déjà parlé, je ne vais pas le laisser passer. » Et Perez, à la ligne d'arrivée, a dit « On voit ses vraies couleurs. » Bonjour l'ambiance.
Non seulement les deux hors du top 5, mais d'après moi, ils vont devoir mettre un petit mur entre les deux dans l'avion.
Ouais.
Un petit mur d'oreiller comme quand un couple se chicane. Un mur d'oreiller dans le lit.
Ouais, je pense que ce sera peut-être pour aujourd'hui, mais apparemment. Et je sais pas si c'est vrai, mais c'est Eric Van Haren, qui est un journaliste attitré à la Formule 1 pour The Telegraph aux Pays-Bas, qui reprend en fait les mots les mots que Tom Coronel, ancien pilote automobile, dit sur Viaplay. Apparemment, Sergio Perez aurait volontairement eu un accident lors des qualifications à Monaco, ce qui a entraîné le drapeau rouge en toute fin de course. Et l'aurait admis plus tard à Helmut Marko et à Christian Horner, ce que Max Verstappen n'a pas oublié. Et là, en entrevue, je vais aller chercher le tweet qui provient de Toby Gruner, qui dit que Max Verstappen a dit il va quand même aider Checo à Abu Dhabi. Quand même, donc...
Écoute, si jamais c'était la fois où que Max prenait sa revanche, on dit souvent la vengeance est un plat servi froid. Mm-hmm. Il attendait sa chance peut-être, là, mais regarde, ça a quand même pas de bon... ça look bad, là, je sais pas. Ça paraît très, très mal en ce moment. Mm-hmm. Je veux dire, entre toi puis moi, là, qu'est-ce que Max a allé rechercher cette année-là? Surtout là, il n'est même pas proche de gagner. La victoire n'est même pas possible à ce point-là. Mm-hmm. Il perd quoi?
Moi, c'est ça.
Puis là, ce que ça donne comme position, c'est que maintenant, Leclerc et Perez sont à 290 points chacun. OK? Ouais. Russell peut techniquement dépasser Perez à cause de ça. encore au classement.
Ouais.
Si jamais Perez avait été chercher un point de plus, il s'assure au moins de la troisième place parce que Russell est 25 points derrière. Fait une victoire avec un tour le plus rapide le fait passer devant Perez si jamais lui ne récolte pas de points. On s'entend que c'est extrêmement peu probable.
Mm-hmm.
Mais écoute, puis l'autre chose, c'est que ça fait en sorte que dans une situation où Leclerc et Perez se retrouvent un à côté de l'autre, à ce moment-là, tu deviens dépendant du point supplémentaire, dépendant où est-ce que tu es sur la grille.
Mm-hmm.
Ou encore, tu deviens dépendant de facteurs aléatoires. Par exemple, des stratégies des autres, etc., pour aller sécuriser cet égard-là. Écoute, je pense que c'est le fait que Ferrari ne l'ait pas fait non plus entre Sainz et Leclerc, mais en même temps, Sainz méritait sa troisième place. Okay?
Mm-hmm.
Et tu ne dis pas qu'il aurait dû laisser passer Leclerc parce que honnêtement, Sainz, avec les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé avec la pénalité sur la grille, etc., le fait qu'il s'est retrouvé à faire deux arrêts, trois arrêts techniquement, parce qu'il y a eu deux trains de médium, deux trains de gomme-tente. Ouais. Donc, ouais. Lui, il a vraiment travaillé pour ces points-là. Puis pendant un bout de temps, il était en train de tomber là, vraiment avec ses gommes médium. Et puis, la safety car est venue au bon moment pour lui. Fait que, écoute, il a été opportuniste. Moi, je ne vais jamais y enlever ça. Puis je pense pas que Leclerc méritait... Leclerc n'avait pas de droit de demander cette troisième place-là, selon moi.
Ouais. Pour vrai, dans le cas de Leclerc, je pense pas que c'était nécessaire.
Non, c'est ça. Je trouve que Sainz était là de plein droit.
Il était là de plein droit, en effet. Et puis, je pense que l'écart entre les deux était assez grand, si je me trompe pas. Attends, je vais... Juste
il y a 4 secondes et demie d'un de l'autre, là. Donc, 3,8 secondes.
OK.
Donc, c'est...
Rendu là, Sainz a tout fait pour essayer d'aller chercher le podium pour Ferrari.
Puis écoute, Alonso était 1,3 secondes derrière Leclerc. Donc, ouais. Si jamais Sainz attendait après Leclerc et puis qu'il ne reprenait pas sa position de la bonne façon, il perdait deux places.
Ouais.
Donc
c'était un jeu.
Ferrari avait raison. Honnêtement, au final, là, quand on regarde le portrait global, là,
ouais.
Ferrari avait raison de garder les choses telles qu'elles sont. Si jamais il avait 3-4 secondes d'écart avec Alonso, correct. J'aurais pu comprendre le geste, puis je suis sûr que Sainz aurait eu à peu près le même genre de réaction que Perez. Une certaine insatisfaction, mais je suis sûr que Leclerc va voir la grille puis la grille finale de la course puis va se dire, OK, fine, je suis pas content, mais regarde, c'était la bonne chose à faire. Là.
C'est ça. Mais je veux juste revenir dans le cas de Verstappen parce que dans le cas de Red Bull, je suis assez surpris d'avoir lu ce que j'ai vu il y a quoi... À propos de Perez qui fait un accident délibérément à Monaco.
Je trouve ça un petit peu particulier. Moi, honnêtement, je regarde cet instant-là. Je suis d'accord que Perez a déjà eu l'air plus brillant. OK? Mm-hmm. Mais est-ce que je suis prêt à dire que c'était un accident volontaire? Non. Surtout la façon qu'il a tapé le mur, là, ça ressemblait. Il y aurait eu des façons. Là, c'est pas l'endroit, c'est pas de la façon que ça s'est fait, je trouve vraiment pas que ça ressemblait à un crash gate, si on veut, là.
Ouais.
Ouais. En tout cas, regarde.
Ouais. Pour vrai, je sais pas, parce que je pense, si on avait... Si jamais c'est vrai ce qui est dit là.
Ben, si c'est vrai, honnêtement,
c'est pas
fair play de Verstappen.
Ouais. Mais je ne suis pas prêt à croire qu'un pilote ferait un accident volontaire. Bon, quoi qu'en même temps.
On a un vu. Accident, là. Et un accident volontaire, je peux te dire, là. Il n'y a pas grand monde qui veut faire un accident volontaire. C'est dangereux, là.
Ouais.
Et surtout en qualification que, genre, le gars en arrière de toi est 3-4 secondes derrière.
Et à Monaco, en ça, plus.
Ben oui, ça te met en danger, là.
Ouais, donc. J'ai mes doutes là-dessus. Je ne pense pas que les propos d'abord de Tom Coronel et de Eric Van Ren sont justifiables. Je ne pense pas qu'un pilote veuille, comme on le dit, veuille se cracher. Mais dans le sens des commentaires de Max pour dire qu'il a ses raisons, c'est pas le temps de régler tes problèmes quand ton pilote qui t'a quand même aidé pour le championnat l'année dernière.
So did he. Oui.
Surtout, veut se battre pour la deuxième place, qui est important pour l'écurie. Mais écoute, chaque pilote a son ego. Ça, ouais. Aucun doute. Mais,
excuse-moi, je ne vais pas te couper la parole.
Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ton ego passe devant ton équipe. Puis on l'a vu à On l'a déjà vu à certaines reprises, pas seulement, mais à certains égards, là, où l'ego est passé devant l'équipe et ça a créé des tensions.
Écoute, puis tu sais, quand tu dis chaque pilote a son ego, là, de la même façon que quand, tantôt, Anna Maria dans le chat disait que Max est un gros bébé gâté, j'ai dit félicitations, tu viens de décrire 20 pilotes sur la grille.
Ouais,
tout le monde était. Tu n'arrives pas en F1 en étant un bon garçon qui n'a pas d'ego et qui a pas qui ne va pas penser à lui dans des situations comme ça. Mm-hmm. Tout le monde va être égoïste à un certain niveau. Ouais. C'est ce qui fait en sorte que tu te rends F1 d'être égoïste. C'est un sport d'écurie. Il y a une équipe, mais au bout du compte, c'est un sport individuel.
Ouais.
Avec un très, très petit facteur d'équipe.
Exact. Et d'autant plus aussi que c'est d'autant plus je veux pas m'attarder sur le cas de Monaco parce que ça comme si c'est vrai ça a quand même un lien sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ouais. Difficile à prouver et
surtout c'est pas le temps de le faire.
Bah oui, c'est ça, c'est pas le temps. Il reste une course là. C'est juste si c'est vrai que Verstappen a ses raisons parce qu'il veut pas laisser quelqu'un passer, fine, mais ça peut coûter cher à la fin. Donc ouais, écoute. C'est ça.
Ouais, écoute, c'est une drôle de situation que on ne sait pas ce qui se passe entre les deux derrière.
Ouais.
En arrière-scène. Honnêtement, comme je dis, il y a d'autres moments plus appropriés pour faire passer un message. Mm-hmm. Puis, écoute, ça n'en était pas un. Écoute, on est sur les derniers milles d'un championnat, là,
mm-hmm.
où que chaque point peut faire en sorte que tu vas gagner ou perdre une ou deux positions. Là.
Ouais.
Fait, c'est, comme je disais, Russell peut, avec des abandons de Leclerc et Perez, puis lui, une victoire avec un tour le plus rapide, Russell peut encore terminer deuxième. C'est pas le temps. Techniquement, là, Perez peut perdre deux positions au championnat à cause de ces deux points-là. Là.
Ouais. Exact. Ça pourrait jouer.
C'est énorme.
Et en plus, ce serait la première. Puis en plus, on s'entend, Red Bull, dans leur histoire, n'a jamais terminé. On n'a jamais obtenu le doublé au championnat des pilotes. Donc, il y a une chance énorme là-dessus. Là. Donc, c'est pas le moment de jouer avec l'ego, ben d'avoir un ego plus grand que son équipe. Puis, avant de passer à Alpine et McLaren, je suis en train de lire, il y en a beaucoup qui pensent que est-ce que c'est similaire au Multitop 21? Je pense pas, là.
On est dans des contextes complètement différents.
On est dans des contextes différents. Puis en plus, ben tu sais, oui, ça a causé des frictions, mais c'était des frictions qui étaient déjà existantes dans le passé.
Ben écoute, au bout du compte, là, tu regardes le contexte général de la saison de Max Verstappen, là. Ça va peut-être être une tâche sur une saison qui est absolument légendaire.
Mm-hmm.
Je trouve. Ça va mettre une mauvaise note dans un travail impeccable.
Ouais.
Essentiellement, là, sans faute depuis le début de la saison. Là, c'est irréprochable ou presque. Là. Il y a eu. Écoute, c'est sa deuxième course ou troisième, si on veut, là, sur 22, où que vraiment, là, il n'était pas sharp.
Mm-hmm. C'est ça. Donc, enfin, je pense que on va en entendre parler à Abu Dhabi, ça c'est sûr. Mais oui. je pense qu'après ça, là, on va pouvoir enterrer la hache de guerre. Et parlant de hache de guerre, ben, disons que ça a brassé chez Alpine. Dans le sprint, Alonso et Ocon se sont accrochés. Alonso a une pénalité de 5 secondes pour avoir causé une collision. Ocon a vu sa voiture prendre feu en partie. Il y a eu des réparations. Ils ont changé le groupe propulseur sans pénalité, heureusement. Tout ça pour finir dans les points avec Alonso 5e et Ocon 8e. Dans une course où les deux McLaren ne marquent pas de points. Et en plus, ben, il y a une avance de 19 points entre Alpine et McLaren au classement des pilotes. C'est un bon dimanche dans les circonstances quand même pour l'écurie française.
Oui, écoute, McLaren avait une position très, très intéressante avec Norris. On voit quand même là, que le contact qu'il y a eu avec Leclerc, lui aussi l'a handicapé d'une certaine façon là, parce que il se faisait dépasser là, une fois ou deux, trois tours là, quasiment.
Ouais.
Donc la voiture n'était clairement pas à 100%. Il semblait avoir des problèmes d'alignement là, avec. Il semblait avoir ce qu'il disait, là, il y avait une drôle de sensation dans le volant. C'est sûr que ça n'allait pas s'améliorer, disons. Là. Mais tout ça pour dire que on dirait que Alpine et McLaren, chacun s'alterne d'avoir un week-end très positif, puis à la suite de ça, quand un a un très bon week-end, l'autre semble complètement l'échapper.
Mm-hmm, ouais.
Autant à Singapour, c'était un switch totalement en faveur de McLaren avec les deux qui ramassent des gros points. Si jamais je ne me trompe pas, c'est 5 et 6, 5 et 8, quelque chose, 5 et 7.
4, je pense que c'était 4 et 5, je crois.
Norris 4, Ricciardo 5, c'est 22 points, tandis que Ocon et Alonso avaient les deux abandonnés. Ben, c'est essentiellement ça qui vient de se passer aujourd'hui. Tu as Alonso 5e, puis Ocon 8e. Mm-hmm. C'est moins de points, mais c'est le même genre d'équilibre là, qui vient de se passer parce que McLaren, les deux voitures ne terminent pas la course. Fait que, écoute, si jamais McLaren réussit une autre course très, très positive comme il y a eu à Singapour, puis que Alpine continue d'avoir des problèmes de fiabilité à Abu Dhabi, c'est pas terminé. Mais disons que ça regarde très, très mal là, pour l'écurie de Woking.
Ouais. Et ce sont des millions quand même.
Ah, je pense que c'est 10 ou 12 millions là, quand tu termines en 4e, 5e au classement. Tu sais,
exact.
Ça a l'air de rien dans le grand portrait de la F1, mais tu sais, c'est quand même considérable. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, là, mais en ce moment, là, c'est deux prises là, c'est deux prises en faveur de d'Alpine, disons. Là. Il reste juste à la dernière balle à lancer.
Oui, exactement.
Puis c'est pas sur Daniel Ricciardo que McLaren peut compter, là.
Exact. Donc, ça, c'est là où Alpine a un avantage, c'est d'avoir deux pilotes qui sont constamment capable d'aller chercher des points. Alors, c'est bon pour Abu Dhabi, mais il faut pas que la. Mais le seul problème, c'est la fiabilité. Parce que ça reste quand même le talon d'Achille de cette écurie. Donc, ouais. Mais quand même, chapeau à Alonso et Ocon d'avoir bien géré ça, malgré les différents de... Ben, en fait, je dirais qu'il y a eu des différends qu'il y a eu au cours de la saison entre ces deux-là, surtout en Arabie Saoudite, aussi en Hongrie, puis maintenant à Sao Paulo.
Ben écoute, ça continue là, pour Esteban Ocon. On dirait que toutes ses relations avec ses coéquipiers se terminent en queue de poisson. C'est quelqu'un qu'on dirait qu'il n'a jamais été capable de bien s'entendre avec son coéquipier. De la même façon que Fernando Alonso, si jamais est capable d'écraser son coéquipier, il va le faire. Je pense qu'on l'a vu assez souvent. Je trouve que l'an dernier, c'était intéressant quand même. Il semblait y avoir un respect entre les deux pilotes. Alonso a beaucoup aidé dans la victoire d'Esteban Ocon. Puis de la même façon qu'au Qatar, c'était au Qatar, si je ne me trompe pas, que Esteban Ocon a essayé avec beaucoup moins de succès, si on veut, de faire la même chose pour aider Fernando.
Oh, exact.
Écoute. Je trouvais que c'était intéressant pour une fois que les deux semblaient bien s'entendre avec leur coéquipier, mais cette année, du moment que les deux sont plus compétitifs l'un et l'autre, leur ego semble prendre le dessus.
Exact. Donc, leur ego a pris le dessus, mais disons que ça les a poussés à être quatrième jusqu'à présent avec une course à faire. Donc... ça, au moins, ouais. ça peut aider à Alpine pour aller chercher ces dizaines de millions de dollars. Par contre, du côté de Haas, il garde la huitième place. C'est un point de plus grâce à la huitième position de Kevin Magnussen au sprint de samedi. Ouais. Mais Magnussen, victime de ce contact avec Daniel Ricciardo et Mick Schumacher, malgré... un bon début de course où il se retrouvait dans les points, fini 13e quand même. Ouais. C'est un peu compliqué.
Pas sûr que Magnussen, honnêtement, avait la voiture pour ramasser des points aujourd'hui. Il y a eu deux voitures de sécurité. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'arrêts au puits. Fait qu'évidemment, il y avait peut-être une opportunité d'en tirer avantage. Mais quand même, on voit que... tout ce qui est Alpine, Mercedes, Ferrari, Red Bull était de loin plus vite. Fait que ça fait en sorte que la meilleure position devenait presque par défaut une 9e place. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, tu sais, je trouvais que Bottas avait une très, très bonne course. Stroll a quand même terminé dans les points. Vettel aussi avait une bonne course relativement. Fait que si jamais il terminait dans les points, ça aurait été encore une fois une très, très grosse réussite parce que c'était pas un circuit qui semblait bien convenir pour une course plus longue, disons.
Mm-hmm, exact.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Là, je trouve que... Puis en qualification aussi, même là, c'était laborieux. T'sais, le fait qu'il soit au bout de la ligne des puits et qu'il a été capable de sortir très, très rapidement pour aller faire son tour, ça lui a essentiellement donné la pole en qualification vendredi parce que un autre tour, puis tout le monde le battait si jamais il pleuvait pas, là.
Ouais, c'est ça. C'est
opportuniste.
C'était très opportuniste, mais ils ont joué le jeu de la stratégie très bien. Ouais. Aussi, l'avantage d'avoir fini dernier aussi, c'est d'avoir la ligne des puits, leur garage à la sortie de la ligne des puits. Donc, ça a aidé aussi. Puis aussi, bon, Verstappen a en quelque sorte une petite correction à faire sur son tour de qualif aussi, donc ce que ça a aidé, mais je ne pense pas qu'il avait réalistiquement on le savait qu'il n'allait pas il allait pas rester devant éternellement les gros canons, donc c'était peut-être 7-8e place qui était possible entre autres au sprint et au moins essayer de faire quelque chose avec la course le dimanche, mais ça a fini au bout de 2 kilomètres à peu près. Là. Donc, c'est dommage, mais au moins avec AlphaTauri qui ne marque pas de points parce que Pierre Gasly s'est... Ben, Pierre Gasly s'est pris une pénalité de 5 secondes pour vitesse excessive dans la ligne des puits.
Il était le 12e.
Sans avoir en plus, en passant, 0 point pour... 0 point de pénalité parce qu'il est sous la... Il est sur la sellette pour une suspension d'une course. Il y a une pénalité de 5 secondes, mais pas de point de pénalité. Donc, il va être présent à Abu Dhabi.
Lui, c'en est un qui doit se surveiller, là.
Exactement. Donc, présentement, ben, Haas reste quand même à 2 points devant AlphaTauri en 8e position. Donc, finalement, ben... Ah oui, puis il faut qu'on parle aussi de Aston Martin. Lance Stroll, 10e. Ouais. Au moins, ça a été un week-end catastrophique, mais qui s'en tient avec un point, donc...
Jamais, on s'était dit en début de saison qu'après un week-end catastrophique, Aston Martin marquerait des points.
Ouais.
Ça aurait été un peu bizarre. Mais écoute, c'est quand même une écurie qui, avant Singapour, était 9e au classement. Puis là, ils sont 5 points derrière la 6e place.
Ouais.
Fait, complètement un revirement de situation là, total. Ils vont chercher des points beaucoup plus régulièrement. Je suis pas un fan de Lance Stroll. Comme je l'ai dit plusieurs fois, mais quand il fait des bons coups, je dois le reconnaître, c'était une bonne course overall pour lui. C'est pas génial, bonne course.
Exact.
Parce que ceux qui ont terminé devant lui étaient clairement meilleurs. Je pense que de terminer là où il devait si jamais il faisait son travail.
Exact. Donc, il est capable de faire son travail. Bon, hier, c'était pas... c'était stupide de sa part, son move défensif sur Vettel.
Des fois, les rétroviseurs, on dirait qu'ils sont plus petits sur sa voiture que les autres. Hein?
Ouais. Mais c'est ça. C'est un de ses problèmes, la.
La défense.
Sa défense. Mais ouais. C'est ça. Au moins, il a un point. Donc, c'est bon comme ça. Donc, on va conclure là-dessus avec. Avec ces mots sur Lance Stroll. donc, ceci complète cette émission d'après-course du bulletin GP. Il nous reste une émission d'après-course et ce ne sera pas dans longtemps. C'est la semaine prochaine à Abu Dhabi. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast et autres. Évidemment, on est sur Facebook, Twitter. Et évidemment, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace. Sans oublier, on parlait de Monaco. C'était la course de la semaine passée. Maintenant, on s'en va à Mexico. À Mexico pour le championnat de Sim Racing canadien avec un sprint en plus. Donc, jeudi à 20h sur la chaîne Twitch, twitch.tv/. Ligue CSC et évidemment, il y a bulletingp.com. N'oublions pas aussi que pour l'épisode de jeudi, c'est le quiz du bulletin GP. Donc, on vous invite à écouter ça en grand nombre. François, un énorme merci d'avoir été présent.
Ben, merci encore une fois pour l'invitation, Abdou.
Et écoute, c'est presque fini cette saison de balado pour le bulletin GP. Il ne reste plus que... 4 épisodes de podcast et ensuite, c'est l'heure des grandes vacances. Alors sur ce, mon nom est Abdoussal, on continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve jeudi pour le quiz et la semaine prochaine pour le dernier épisode d'après-course de la saison 2022. Salut tout le monde!